Le cantique des cantiques est souvent utilisé lors des cérémonies de mariage. On y voit en effet une image, vous savez, merveilleusement poétique de l'amoureux et de l'amoureuse, du bien-aimé, qui vient, comme l'on nous dit, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines, semblable à la gazelle ou au faon des cerfs. Et on y voit aussi cette bien-aimée qui y a un visage si doux, un visage si agréable, et avec cette union annoncée entre les deux qui nous dit « Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui, il fait paître parmi les lys. » Et donc oui, nous aimons ces textes parce qu'ils sont poétiques, parce qu'il y a question d'amour, parce qu'on y trouve de belles images bucoliques, la vigne en fleurs, le pâtre et les tourterelles. Mais est-ce que vraiment ce texte parle de ça? Ça n'est pas sûr du tout, ça n'est pas sûr du tout. Certains même disent que non. En fait, ce texte ne parle absolument pas d'amour, ni de tourterelles, ni de Roméo et Juliette, mais ce texte est un texte théologique, c'est-à-dire allégorique, autrement dit, c'est une parabole. Et il n'est pas plus question là d'y lire des histoires d'amour que dans les paraboles de Jésus, d'essayer de savoir comment il faudrait semer. On ne sème pas sur les chemins ni sur les rochers, ni même, vous savez, dans ces paraboles un peu bizarres de l'intendant voleur et infidèle qui permet l'enseignement, mais qui n'est évidemment pas un exemple parce qu'il ne s'agit pas d'être un gérant malhonnête dans la vie d'aujourd'hui. Et donc certains disent non, non, ça n'a rien à voir, cette utilisation est un simple contresens. Mais là encore, je n'en suis pas sûr. Parce que je crois quand même que même s'il y a évidemment un sens allégorique dans ce texte du Cantique des Cantiques, pourtant il y a quand même dans la Bible un livre entier qui parle de l'amour physique, qui parle de la poésie, qui parle de la nature, de la beauté, de la création. Et je pense que ça n'est pas indifférent. Et il y a un vieux principe de lecture de la Bible, un vieux principe talmudique, qui dit que dans la Bible, une interprétation n'en efface jamais une autre. C'est-à-dire, ça n'est pas parce que le cantique des cantiques peut avoir un sens symbolique que néanmoins, il n'a pas de sens au sens premier. Donc oui, j'admets que le cantique des cantiques soit une belle évocation valorisante de l'amour physique, de la nature, de la beauté et de la poésie. Cela dit, je pense que c'est effectivement bien plus que ça. Et comme mon travail à moi, c'est de vous prêcher l'Évangile, je voudrais faire cet exercice avec vous de relire l'un des passages du Cantique des Cantiques, non pas comme une évocation de la beauté de la nature, mais comme un texte théologique. Autrement dit, il y a là un principe de base, de relire ce texte, non plus en imaginant Roméo et Juliette, mais en se disant « il est question là de théologie ». Il est question là de Dieu, du Christ et de l'Évangile. Parce qu'en effet, c'est une constante dans toute la Bible de dire que l'union entre l'homme et la femme est une image de l'union entre Dieu et l'humanité. Et que par conséquent, dans le Cantique des Cantiques, le bien-aimé, c'est Dieu, et la bien-aimée, c'est nous, c'est l'homme. Et on retrouve cela jusque dans l'Évangile. On l'a vu tout à l'heure, Jean-Baptiste qui présente Jésus en disant « Lui, c'est l'époux », c'est-à-dire celui qui justement doit s'unir avec nous. Et Paul dit la même chose dans sa lettre aux Corinthiens où il dit « Je vous ai fiancé à un seul époux comme une vierge pure, Jésus-Christ ». Et donc nous sommes invités à nous unir à Dieu ou au Christ dans une sorte d'union qui est à la fois respectueuse de l'autre et une union fécondante qui permet de donner la vie, justement une vie qui nous dépasse. Alors regardons cela, et lisons dans le Cantique des Cantiques, dans ce chant d'amour, tout ce que Dieu aime dans l'homme, tout ce que l'homme aime en Dieu, et comment peuvent s'articuler ces deux présences divines et humaines. Si vous avez cet a priori de lecture, vous allez voir que le texte prend tout à coup un sens très différent. Alors ce que je vais faire, c'est... Je vais essayer de ne pas faire trop de virtuosité biblique, mais simplement de vous montrer ce que je pense que ce que vous auriez pu trouver vous-même, simplement en le lisant avec un peu d'attention. Regardez. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 8, qui commence en disant « Voici, donc c'est la voix de mon bien-aimé. » Le bien-aimé, c'est Dieu et c'est le Christ. Et la première chose qui nous est évoquée, c'est la voix. La voix, c'est la parole. Et donc, voyez que tout de suite, on est plongé, je vous l'ai dit, dans l'évangile de Jean. Au commencement était la parole. La chose la plus essentielle, la plus fondamentale concernant Dieu, concernant ce bien-aimé, c'est la parole. Autrement dit, la première chose qui nous met en relation avec Dieu, ça n'est pas, le sentiment, ça n'est pas l'émotion religieuse, c'est la voix, c'est-à-dire une parole. Et là, en tant que, j'allais dire, que pasteur calviniste, je suis extrêmement heureux parce que Calvin a toujours insisté pour dire la clé, la base de la relation à Dieu, c'est la parole. Et il a voulu que le culte lui-même soit parole. Donc on met une grande chaire et on parle. Et donc on n'est pas là pour essayer de d'émouvoir les gens, de faire des spectacles finalement, mais de dire... Vous pouvez très bien être ému par Dieu si vous voulez, mais la base de votre foi, c'est une parole. C'est-à-dire, c'est un enseignement, c'est un contenu, c'est un message, c'est quelque chose qui informe notre existence. C'est un discours qui donne du sens, un discours qui oriente, qui nous explique. Et Dieu est parole parce qu'il est vocation, parce qu'il est appel, parce qu'il est instruction, parce qu'il est le maître. Et Dieu est parole... Parce que aussi, évidemment, il nous explique, il nous dit certainement qu'il nous aime, qu'il nous pardonne, mais également qu'il nous conduit. Donc vous voyez, voilà, ça c'est l'essentiel, la voix de mon bien-aimé. Et le cantique continue en disant, le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Là encore, si vous avez un minimum de culture biblique, vous avez tout en main pour comprendre ce qu'il nous dit de Dieu. Parce que ces montagnes et ces collines, en fait, je ne sais pas si elles sont bonnes ou mauvaises. Elles peuvent être considérées comme mauvaises, c'est-à-dire comme les obstacles qu'il peut y avoir entre nous et Dieu. Et ça, c'est ce que l'on a aussi quand Jean-Baptiste arrive en disant « Que toute colline soit abaissée, que toute vallée soit comblée, préparez un chemin pour le Seigneur. » Donc oui, il y a entre Dieu et nous des obstacles, d'indifférence, d'impiété, de bêtise, d'égoïsme. Et ce que l'on nous dit, c'est que ce bien-aimé qui est Dieu, il vient en sautant au-dessus des montagnes et des collines. Voilà. C'est-à-dire que malgré notre faiblesse, malgré notre imbécilité, Dieu arrive à franchir tout ça et à le traverser. Mais on peut aller plus loin. Et une fois de plus, je vous le rappelle, une interprétation n'en effaçant pas l'autre. Ce deuxième sens est juste aussi, parce que la montagne, c'est évidemment bon pour la Bible. La montagne, c'est le mont Sinaï où Dieu se révèle. La montagne, c'est le mont Sion, c'est le temple où Dieu est présent. Et donc, ce Dieu qui saute sur les montagnes, ça m'intéresse beaucoup. La montagne de la révélation, la montagne qui est pour nous la Bible. La montagne qui est le lieu du culte, et Dieu saute sur les montagnes. Alors, ça m'évoque plusieurs choses, mais chacun peut laisser travailler son imagination dans ces textes. Ça me dit d'abord que Dieu, eh bien, il saute plus haut que les montagnes, voilà. Donc, il saute au-dessus des dogmes. C'est-à-dire que Dieu n'est pas prisonnier sous le caillou de la montagne, mais il saute au-dessus et il bondit au-dessus de tout cela. Et donc, nous avons dans nos vies... gérer ces montagnes de révélation. Nous avons la doctrine, la théologie, nous avons la Bible, nous avons l'Évangile. Eh bien Dieu, il saute encore au-dessus de ça, il est plus haut que ça. Dieu est au-delà de nos théologies, au-delà de nos doctrines, au-delà de nos théories et même au-delà de nos textes bibliques. Dieu bondit au-dessus de tout cela. Mais en même temps, ces révélations, ces montagnes de doctrine ou ces cultes que nous présidons, lui servent quand même de tremplin. Dieu bondit sur les collines et au-dessus des montagnes, c'est-à-dire que cette doctrine n'est pas vaine néanmoins, c'est le tremplin à partir duquel Dieu est au-dessus. Et donc nous devons prendre le plus grand garde je crois, à ces montagnes, monter sur la montagne, aller au culte, se mettre sur la montagne de la révélation, et à partir de là, il y a un dernier saut à faire pour trouver Dieu qui est plus haut que cela. Donc ce sont comme des points d'appui à partir desquels on peut sauter à notre tour pour rencontrer Dieu. Après, le cantique continue en disant « Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faon des cerfs. » Alors là, vous êtes des citadins, donc vous ignorez tout ça, mais moi qui aime la forêt et la nature, dire que Dieu est semblable à une gazelle ou à une biche, à un chevreuil, un animal sauvage, ça me plaît parce que c'est très difficile de voir un animal sauvage. Et pour voir une gazelle, le faon, des biches, il faut une infinité de patience. Il faut attendre, il faut observer, il faut faire silence. Il ne faut pas gigoter dans tous les sens, courez dans la forêt, vous ne rencontrerez aucun animal sauvage. Il faut s'arrêter, écouter, observer, être tranquille, et essayer de ne faire qu'un, je dirais, avec la nature qui vous entoure. Et je trouve que ça, c'est une image extraordinaire de ce Dieu qui ne vient pas comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, mais ce Dieu qui est comme cette vision fugace du chevreuil que l'on voit bondir au loin dans la forêt, et on le voit et il disparaît. Mais Dieu, c'est comme ça dans notre foi. On voit Dieu et au moment où on l'a vu, déjà, il n'est plus là, mais on sait qu'il existe, on sait qu'il est là. Et cette vision est une vision resplendissante qui nous illumine. Et ainsi, Dieu est comme ce petit animal, je dirais farouche, difficile à approcher, mais qui est le symbole même de la vie et qui donne tellement de joie quand nous le voyons. Et donc, je ne vois pas sans arrêt des animaux dans la forêt, mais je sais qu'ils sont là, je sais qu'ils sont là. Et en tout cas, ce qui est vrai, c'est que je sais qu'ils sont là, mais je ne peux pas m'en emparer. Essayez d'attraper une biche, vous ne pourrez pas. Je ne peux pas attraper Dieu. Il est là et il passe, et il remplit ma vie de joie, et il témoigne que pour moi, la vie existe. Et le voici, dit encore le cantique, le voici, il se tient derrière notre mur. Alors là encore, je comprends très bien cette présence de Dieu, je vous ai dit, ce Dieu qui n'est pas toujours visible, ce Dieu caché, qui est caché derrière un mur. Oui, c'est vrai, Dieu souvent est un Dieu caché. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est toujours évident, il se tient derrière le mur. Et le cantique dit, il se tient derrière notre mur. C'est-à-dire, c'est mon mur à moi, malheureusement. Mon mur de peut-être de manque de foi, mon mur de manque de patience, mon mur de bêtise, d'indifférence, de péché ou d'égoïsme. Eh bien, même si je dresse autour de moi ces murs, Dieu est présent juste derrière. Il est juste là. Et ça, c'est pour moi une merveille, une bonne nouvelle merveilleuse. Dieu est là. Et il nous dit, il regarde à travers les fenêtres. Oui, c'est ça, parce que mon mur n'est quand même pas un mur compact. Il y a des ouvertures, des petits trous dans mon mur. Et chaque fois qu'il y a une fenêtre dans mon mur, Dieu est là et il regarde. Dieu profite de la moindre ouverture pour se montrer. Et nous dit le texte, il brille depuis le treillis. Alors, on ne sait pas très bien, là c'est un mot difficile à dire, mais il brille à travers une sorte de chose qui laisse un peu passer la lumière, mais pas tout à fait quand même, et on dit qu'il brille. Donc cette lumière, voilà, vous voyez, je suis derrière mon mur gris, et il suffit d'une petite ouverture pour que Dieu brille derrière, qu'il me donne cette petite lumière qui me permet d'avancer et qui me permet aussi de trouver une fécondité, parce que, là encore, bon, j'ai promis que je ne ferai pas de choses savantes, je vais essayer d'éviter, là, juste une... Ce verbe qui est dit « briller » est traduit partout dans la Bible ailleurs par « fleurir ». C'est-à-dire qu'il fait fleurir à travers ce treillis. Donc cette présence de Dieu non seulement donne la lumière, mais aussi la possibilité de fleurir. Et donc, « Et mon bien-aimé me répond, nous dit-on, me répond, et il me dit, « Lève-toi pour toi, ma compagne et ma belle Eva. » Et là, c'est intéressant, parce que le bien-aimé prend enfin la parole, et il va dire quelque chose. Et c'est curieux, parce que textuellement, le texte A, Mon bien-aimé répond et me dit. Alors les traducteurs sont très embarrassés parce qu'il répond, mais répond à quoi ? Il n'y a pas de question avant et pas de dialogue. Ce qui fait que les traducteurs se disent, le texte a dû se tromper et il ne faut pas mettre répond. Donc tous les traducteurs enlèvent le répond. Donc ça, vous ne pouviez pas le trouver, mais je vous l'offre en prime. Il y a bien écrit dans le texte, le bien-aimé répond, le bien-aimé me répond et il me dit, lève-toi, etc. Pourquoi nous dit-on qu'il répond alors que rien n'est dit avant ? Eh bien parce que je crois que Dieu nous parle, même si nous ne savons pas exprimer nos questions. Première chose. Et que d'autre part, je pense que la parole de Dieu est en soi une réponse à nos questions, une réponse à nos interrogations spirituelles et existentielles les plus profondes. Et je suis convaincu, oui, je suis convaincu que cet évangile, que cette parole de Dieu, ou que même ce que nous entendons de Dieu dans notre prière et dans notre méditation, c'est une réponse, peut-être même une réponse aux questions que nous sommes incapables de formuler, incapables même peut-être de prendre conscience, mais la parole de Dieu est une réponse. On s'est beaucoup moqué, vous savez, des témoins de Jéhovah qui ne vous posent aucune question et qui disent « peu importe que vous ayez des questions, de toute façon j'ai la réponse ». Évidemment, ça peut sembler curieux, quelqu'un qui vous donne des réponses à des questions que vous ne vous posez pas, mais Dieu, c'est pas tout à fait ça, parce que je crois que dans le fond, il y a dans notre vie des vraies questions, et que la parole de Dieu est réponse à notre vie. C'est la réponse dont nous avons besoin, et c'est ce qui permet de donner sens à toute notre existence et à tous les événements de notre vie. Donc oui, Dieu répond. Dieu répond à l'interrogation de l'homme. Dieu répond à la question de notre vie, à la question fondamentale de qui je suis, pourquoi, d'où je viens, où je vais, etc. Dieu, c'est effectivement cette réponse. Alors Dieu répond, et sa réponse, elle est simple, c'est « Lève-toi, ma compagne, ma belle. » Et va, lève-toi et va. Ça, c'est la base de la parole de Dieu. Lève-toi et marche, dit-il au paralytique. C'est ce qu'il dit à la femme adultère. Il la remet debout, va et ne pêche plus. Lève-toi et marche. Là encore, décidément, il faut que vous appreniez l'hébreu parce que les traducteurs, ne comprennent rien. Ce sont des imbéciles. Les seuls bons traducteurs sont les traducteurs qui ne cherchent pas à comprendre et qui traduisent. Et donc, le texte dit « Lève-toi et va », et les traducteurs se disent « Ben non, c'est un texte d'amour. » Donc forcément, le bien-aimé va dire « Lève-toi et viens ». Et donc, tous les traducteurs nous mettent « Lève-toi et viens, ma bien-aimée ». Non, Dieu ne dit pas « Viens », il dit « Va ». Et ça, c'est extraordinaire, parce que c'est justement le rôle du pédagogue. Le pédagogue, c'est de dire à l'enfant, lève-toi, va, avance et prends ta route. Donc Dieu n'est pas celui qui veut nous enfermer, c'est pas celui qui veut nous capturer. Dieu n'est pas un chef de secte, Dieu n'est pas, le possessif qui veut empêcher de vivre. Dieu, c'est celui qui nous met debout et qui dit, va, va mon enfant, vas-y, tu peux y aller parce que tu as tout pour y arriver. Et moi, je ne t'abandonnerai pas. Et donc, ce « va », pour moi, est absolument essentiel. Et le texte va même plus loin. Parce que quand vous aurez appris l'hébreu, vous aurez vu qu'il ne dit pas simplement « Lève-toi et va ». Il dit « Lève-toi pour toi et va vers toi ». Là encore, les traducteurs ne comprennent rien. « Lève-toi pour toi », ça ne veut rien dire. « Va vers toi », ça ne veut rien dire. Donc, on l'enlève. Mais c'est ce qu'il y a écrit. C'est ce qu'il y a écrit. « Lève-toi pour toi et va vers toi ». C'est-à-dire que cette mise en marche que nous donne la foi, la méditation, la réflexion, la Bible, la prière, ça nous permet de nous mettre debout pour mieux nous trouver nous-mêmes et pour arriver à accomplir notre être le plus profond, pour être capable d'assumer notre personne. Dieu ne demande pas que nous nous annihilions pour le servir, mais que nous puissions nous révéler nous-mêmes en le servant. Et donc c'est bien ça, c'est ce « lève-toi pour toi et va vers toi ». C'est également ce qui est dit à Abraham, ça reprend cet ordre que Dieu donne à Abraham, « lève-toi et va vers toi, va vers le pays que je t'indiquerai ». Et là encore, il s'agit de faire ce chemin qui permet de se trouver vraiment qui l'on est. Car, continue le cantique, voici, l'hiver est passé, la pluie a changé, elle est partie vers elle-même, et dans le pays, les fleurs paraissent. Alors là, ça, vous auriez pu le trouver, la pluie est passée. Où est-ce qu'il y a des pluies dans la Bible ? Ben, le déluge, bien sûr, oui, voilà, c'est-à-dire que c'est la fin du déluge, et que... On n'est plus dans ce moment de condamnation, de jugement, de mise à mort, mais on est au-delà du déluge. La pluie est passée. Et maintenant, on est donc dans un Dieu qui n'est pas là pour condamner, mais dans un Dieu qui est là pour, justement, pour accompagner. Et avec la promesse, qui est de dire, dans le pays, les fleurs paraissent. Et ces fleurs, c'est une belle promesse. Parce que c'est ce que nous donne Dieu, mais une fleur... Ça n'est pas encore le fruit. La fleur, c'est une promesse de fruit. On ne se nourrit pas de fleurs. La fleur, c'est ce qui promet qu'il y aura du fruit. Et donc, ce que Dieu nous donne, c'est ça. C'est qu'il donne finalement la base de ce qui peut donner du fruit. À nous, ensuite, de veiller sur ces fleurs, de veiller sur ces promesses de fruits, de les aider à grandir, à s'épanouir, pour que le fruit arrive. Donc je serais un peu trivial en disant que Dieu ne donne pas tout cuit. Dieu ne donne pas les fruits comme ça à manger directement, mais il donne la fleur. Pour être trivial, vous disais, je dirais que Dieu, c'est un peu Ikea finalement. C'est-à-dire qu'il ne nous donne pas le salut tout fait, il nous le donne un peu en morceaux, et puis vous avez la promesse, ça doit ressembler à ça, et ensuite c'est à vous de vous débrouiller pour que ça ressemble à ce qui est sur l'étiquette. Et en tout cas, je crois qu'il y a une participation, je dirais, de l'homme à ce travail du salut. Et que, par conséquent, ce qu'il nous montre, c'est ça, c'est que Dieu donne la fleur. Et que faire d'autre ? Eh bien, le texte le dit, le temps du chant est arrivé. Et le chant, ben, c'est de psalmodier, de rendre grâce, de louer Dieu. Et peut-être que c'est justement en louant Dieu que nous pouvons faire en sorte que cette fleur se développe. Et la voix de la tourterelle se fait écouter dans notre pays. Cette tourterelle, elle m'amuse aussi, parce que, bizarrement, la tourterelle, ça se dit de la même façon dans toutes les langues de la terre. Tour ou tortor. En hébreu, tourterelle, ça se dit tor, tour, comme tourterelle. Et je ne dis pas que ça vient de là, mais c'est la même origine, évidemment. Et par conséquent, je vous dis ça pourquoi ? Parce que cette tourterelle... Tor en hébreu, c'est un mot hébreu que vous connaissez. Voilà, ce coup-ci, je suis à peu près honnête dans mes promesses. Je vous ai dit que vous pourriez le trouver même sans faire d'hébreu, parce que ça, c'est un mot hébreu que vous connaissez. La Torah. La Torah, la parole de Dieu. Et la Torah, c'est la torterelle. Donc la torterelle, c'est la petite Torah. Et on nous dit, la voix de la torterelle se fait écouter dans le pays. C'est-à-dire, on entend cette parole de Dieu qui résonne justement dans cette terre. Et c'est ça qui donne les fleurs et la promesse. Et qui nous dit de nouveau, lève-toi et va, ma compagne, ma belle, et va vers toi. Deuxième fois, appel à se lever. Pourquoi une deuxième fois ? Eh bien, parce que ça n'est pas facile de se lever. Et pas que le matin, en général, dans sa vie. C'est difficile. Et donc... Il faut ce double appel, lève-toi. S'il doit le redire une deuxième fois, c'est que la première fois, elle ne l'a pas fait. Et qu'il y a donc tout un travail personnel à faire, et sans arrêt, il faut se rappeler, lève-toi et marche, lève-toi et marche. De même, la femme adultère, Jésus, deux fois, doit se baisser avec elle et se relever. Et ce n'est qu'à la deuxième fois que la femme, enfin, se relève avec lui. Et puis, il y a aussi un très léger changement que là encore nos traducteurs ont considéré sans intérêt et l'ont omis, c'est qu'il ne dit pas exactement la même chose la deuxième fois. La première fois, je vous l'ai dit, il dit « lève-toi vers toi, lève-toi pour toi et va vers toi. Et la deuxième fois, il ne dit plus ça. Il y a un petit changement, juste une lettre. Et même les massorètes, les spécialistes hébreux du Moyen-Âge juif ont dit le texte a changé une lettre, ils ont dû se tromper. Donc ils ont corrigé le texte. Mais non, la lettre a bien été changée. Et donc Dieu, lui, n'en déplaise à tous les savants du monde depuis 1000 ans, ne redit pas la même chose. Il ne dit plus « lève-toi pour toi », il dit « lève-toi et va ». Et donc il dit deux fois « va ». Ce coup-ci, on est plus centré sur soi. J'étais un peu gêné en vous disant « il faut se lever pour aller vers soi ». J'étais un peu gêné parce que Jésus lui-même, il dit qu'il faut s'oublier soi-même pour aller sur le chemin de l'Évangile. Mais peut-être qu'avant de s'oublier soi-même, il faut savoir qui l'on est. Et que par conséquent, il faut mettre les choses dans l'ordre. Il faut d'abord parfois aller vers soi, et ce n'est que dans le stade ultime que l'on peut tout à coup dire, ce coup-ci, je suis suffisamment allé vers moi pour pouvoir m'oublier. Et du coup, l'ordre premier n'est plus de se lever pour soi-même, mais simplement d'aller. Donc voilà, finalement, l'ordre essentiel de notre Dieu, là, de ce Dieu du Cantique des Cantiques, c'est de dire « va ». C'est le mouvement qui compte, le mouvement vers les autres. Et c'est ça l'essentiel. « Ma colombe », dit encore Dieu, « ma colombe ». Ah, tiens, c'est drôle ça. « Dieu m'appelle ma colombe ». C'est mignon comme tout, comme dit, mais non, mais c'est pas ça. Je vous ai dit, on parle de théologie. Et la colombe, alors si vous ne savez pas ce que c'est que la colombe, allez vous acheter une croix huguenote dans une bonne librairie protestante. La colombe, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Depuis la création, quand on dit l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. Et donc Dieu qui m'appelle ma colombe, pouah, ça c'est fort ça. C'est-à-dire qu'il me considère moi-même, le croyant, comme le Saint-Esprit, me voilà promu au rôle du Saint-Esprit. Au début du Cantique des Cantiques, Dieu dit à l'homme, je t'aime parce que tes yeux sont comme des colombes. Alors là, je comprends ce que ça veut dire. C'est-à-dire, ce que Dieu aime dans l'homme, c'est qu'il est capable de voir le monde et de voir l'autre avec le regard du Saint-Esprit. Et ça change tout. C'est-à-dire, de mettre les lunettes Saint-Esprit pour voir le monde, les lunettes Saint-Esprit pour voir l'autre, pour voir mon prochain, qui est pécheur, pénible et insupportable. Et j'aime le voir avec les lunettes de Dieu. Quelle merveille! Et quand on regarde le monde ou le prochain avec le regard du Saint-Esprit, tout est différent. Eh bien, au début, l'homme a des yeux comme des colombes, il a le regard de la bienveillance de Dieu. Et là, on en arrive à être soi-même une colombe, parce que je crois, et j'en suis convaincu, que l'on finit par être, on finit par arriver là où se porte notre regard. Et qu'effectivement, c'est ce vers quoi l'on regarde qui nous transforme. Et on finit par devenir même ce vers quoi l'on regarde. Et quand on regarde le monde, quand on regarde l'amour et la bonté, on devient soi-même amour et bonté. C'est ce que dit Jésus d'ailleurs. Il dit « L'œil est la lampe du corps. Si votre œil est en bonne santé, tout votre corps sera en bonne santé. » Et donc l'important, ce n'est pas ce qu'est le monde qui est comme il est, c'est le regard qu'on porte sur lui. Et quand notre regard est tendu vers l'amour, eh bien progressivement notre vie s'oriente vers là. Ça c'est ce que l'on m'a appris dans, je vous l'ai déjà dit, dans tous les sports que j'ai pu pratiquer, aussi bien en équitation, on dit « ne regarde pas l'obstacle, tu regardes derrière ». Eh oui, c'est ça, sinon si on regarde l'obstacle, on s'écroule dessus et on se fait très très mal. C'est ce qu'on m'explique aussi au ski, c'est bientôt l'époque. Quand vous tournez, si vous regardez, faut regarder là où l'on tourne. Et en fait, toute la vie suit le mouvement. C'est vrai aussi en moto, c'est vrai à la course, c'est vrai dans tout. C'est le regard qui guide. Eh bien, dans notre vie aussi, c'est le regard qui guide. Et la foi, c'est de tourner son regard vers ce que l'on croit essentiel. Et donc, c'est bien cela. Ma colombe... Tu es dans le creux des rochers, dans le secret de la marche, fais-moi voir ton visage. Ce creux du rocher, là encore, bon, je vais finir par arrêter, parce que vous voyez, ça devient très simple. Le rocher, c'est Dieu, évidemment, Dieu, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse. Et nous sommes invités à être dans le creux du rocher, à nous blottir dans cette présence de Dieu. Et dans le secret de la marche, là aussi ce secret me plaît beaucoup, ce secret de l'intimité de la relation avec Dieu. Quand Jésus dit, quand vous priez, ne priez pas sur les places publiques, mais priez dans votre chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. C'est là qu'il y a une source qui peut revitaliser notre existence dans le secret, dans cette révélation de Dieu qui nous est donnée et qui nous permet de monter la marche comme sur les marches d'escalier. Enfin, il dit, saisissez pour nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes et nos vignes en fleurs. Les renards, c'est des animaux pas très positifs dans la Bible. C'est dommage, j'aime bien les renards, mais... En plus, c'est idiot, les renards ne sont pas carnivores, donc saisissez les renards qui ravagent les vignes. Vous voyez bien que le sens premier est totalement absurde. Aucun renard n'a jamais détruit une vigne, je ne crois pas. Et donc, c'est qu'il y a cette vigne du Seigneur qui est ce que nous sommes, invités à produire du fruit, du bon vin, du bon raisin. Et le renard, c'est ce qui est destructeur, c'est ce qui ravage notre vigne. C'est le péché, c'est le mal. Et donc, il y a... Vous voyez, jusqu'ici, tout ça était très positif, un peu optimiste. Et à un moment donné, c'est le seul endroit où tout à coup le texte nous dit, bon, vous êtes sous la grâce, Dieu vous considère comme des colombes et tout. Mais aussi, attention, vous avez un rôle. Ces renards qui ravagent les vignes, vous les attrapez et vous les balancez. Saisissez les renards. C'est-à-dire, prenez-vous un peu en main quand même pour essayer de retirer de votre vie ce qui est nuisible, de retirer de votre vie le mal. Tout ce qui peut nuire à votre bonne relation à Dieu, à votre fécondité, c'est bien de vivre de la grâce, mais il faut aussi qu'il y ait dans notre vie une part de lutte contre le mal, et pas seulement contre les grandes choses. Le texte dit « saisissez les renards, saisissez les petits renards ». Même les petits renards, enlevez-les de votre vie. Même les petites choses, comme dit la parabole des talents aux serviteurs, « Tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. » Ou comme il dit à l'intendant infidèle, « Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. » Il n'y a pas de grandes et de petites choses dans notre vie. La plus petite chose est déjà une chose. Et il ne faut pas, sous prétexte que les renards sont petits dans notre vie, les laisser vivre. Il faut saisir les renards et les petits renards et les rejeter hors de la vigne. Et la conclusion, c'est « Mon bien-aimé est à moi, et moi je suis à lui ». Formule parfaitement symétrique, incroyable, « Mon bien-aimé est à moi, et moi je suis à lui ». Dieu qui nous invite dans une relation absolument symétrique entre lui et nous. Il est à moi, et je suis à lui. Et ça me fait, j'allais dire, demander pardon pour des siècles, où dans les célébrations de mariage, on a mis des formules dissymétriques entre l'homme et la femme, où l'homme promettait de protéger sa femme et la femme de se soumettre à son mari. Eh bien, faites comme vous voulez dans vos couples, mais Dieu, en tout cas, ne fait pas ça. Dieu met une formule totalement symétrique entre lui et nous. Quelle chose extraordinaire! Comme dans l'évangile de Jean, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il fait paître parmi les lys, jusqu'à ce que souffle le jour et que les ombres s'enfuient. Il fait paître, donc oui, il est le bon berger. Vous voyez tout ce que ça entraîne. Et parmi les lys, là, il faudrait revenir au début du texte, c'est les autres croyants, les autres chrétiens. Donc Dieu me prend soin de moi au milieu des autres. Voilà, moi au milieu des autres, et pas moi tout seul, et c'est pas les autres tout le monde. Il prend soin de moi au milieu des autres, jusqu'à ce que souffle le jour et que les ombres s'enfuient, jusqu'à ce que souffle le jour. Voilà le souffle qui apparaît, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, esprit veut dire souffle, c'est le même mot, hein, et donc le Saint-Esprit est la lumière. Et que les ombres s'enfuient, pas qu'elles disparaissent, mais qu'elles s'éloignent. Et ainsi nous voyons dans cette fin, je dirais, le résumé, le rôle extraordinaire du croyant, qui est tout simplement d'être en union avec Dieu, d'être en communion avec les autres croyants sous la houlette de Dieu et de travailler à la lumière du monde. Mais ne craignez rien, frères et sœurs, car vous avez été choisis pour être l'épouse de Dieu, et Dieu vous aime, il vous accueille, il vous donne tout par grâce, il partage tout avec vous, et malgré notre noirceur, il nous a trouvés assez beaux ou assez belles pour pouvoir nous unir à lui et ensemble avoir un projet extraordinaire pour ce monde et pour nous, qui est simplement celui de donner la vie. Amen.